L'Inter peut aussi remercier ce que j'ai vu au bout de ses actes.
On voyait vos comptes, Messi, on a cru qu'il allait pas tenir une demi-heure, qu'il allait prendre un rouge.
Et Moutinho, il a joué assez bas, j'ai l'impression. Hein. Moi, je pense que ce jour-là va faire énormément de bien au Barça une fois qu'ils auront réglé leurs problèmes défensifs.
Il y a eu un 0-0, le Cluj a gagné le score.
Je pense que ça va laisser un goût très très amer pour les supporters marseillais.
On avait Dizzy qui passait l'aspirateur tout à l'heure.
Oui, bah, excusez-moi.
Ouais, je crois que Canal+ a du souci à se faire avec cette équipe qu'on a.
Il est 20h04, bonsoir à tous. Ce soir avec nous, il y a Hugo.
Bonsoir à tous.
Et bien sûr, Ahmedou, il est là. Ok, donc sans plus tarder, on va parler de l'AS Roma en Ligue des Champions, on va parler de la Juve, de Serie A. Et donc, les gars, c'est parti, on vous écoute sur... On commence par la Juve.
Ok, alors ça va être moi pour commencer. Bonjour, bonsoir tout le monde. Ahmedou, pour vous parler de la Juventus, ça, alors il y a à peu près 2 ans, c'était un peu plus de 2 ans, il y a eu ce que l'on appelle Modiopoli ou Calciopoli, Modiopoli en référence à notre cher ancien président Moggi. Ou Calciopoli, c'était donc ce scandale de contact d'arbitrage, de choix d'arbitre pour les matchs. Suite à ceci, il y a eu des sentences et la Juventus a été reléguée, rétrogradée en deuxième division avec 8 points de pénalité. Cela dit, la Juventus s'est relevée au départ avec en français Didier Deschamps, champion du monde, aux commandes. Il avait permis à la Juventus de revenir très vite, grâce aussi à des joueurs fidèles, Alessandro Del Piero en tête, David Trezeguet, Gianluigi Buffon, Pavel Nedved, tout ce beau monde-là permet de ramener la Juventus en première division, et lors de la première saison en première division depuis le retour, ça s'est très bien passé, troisième au final, en ayant bâti les ténors des championnats durant la saison, le Milan, l'Inter et la Roma, voilà, ça a permis donc à la Juventus de retrouver cette fois la Ligue des Champions, et avec ses bons vieux toujours là, la Juventus s'est qualifiée maintenant pour les huitièmes de finale de la Champions League. Alors, what's next? C'est ça la question. Qu'est-ce qui vient après? Tout le monde se demande, est-ce que la Juve va être à la hauteur? Est-ce que la Juve peut gagner le championnat, peut lutter vraiment pour gagner le championnat ou alors la Champions? Du côté des supporters de la Juventus, on se pose pas trop la question pour la Juve. Se doit de gagner quelque chose. On peut pas rester 2 années sans rien gagner. Ça serait même 3 parce que la Serie B c'est pas vraiment un titre. Championnat de Serie B, c'est pas vraiment un titre digne de la Juve. Pour les supporters, il y a pas de doute. Si Ranieri ne gagne rien cette année, il n'aura plus aucune excuse et il ne sera pas prolongé. Son contrat se termine cette année, en fin de saison. Mais en voyant les choses logiquement, l'Inter est quand même bien plus fort. L'Inter est bien plus armé financièrement. Même le Milan est en avance. Ça va pas être évident pour les vieux clonards comme Del Piero, Nedved, de tenir toute la saison sur les deux tableaux. sur les deux principaux tableaux, parce que il y a un troisième qui est la Copa, mais qui ne, la Copa ne représente pas autant que ça. Pour la Juve, il faut gagner quelque chose, mais le plus important pour les supporters, c'est que la Juve soit là, que la Juve lutte, que ce soit sur le pour le championnat ou pour la Champions. Par exemple, si demain le tirage au sort fait que l'on tombe sur Manchester United, on peut comprendre une élimination en huitième de finale, mais peu importe, il faut vraiment que la Juve soit il faut vraiment que la Juve soit au niveau et montre un autre visage. Je crois qu'il y a une question là, Hugo. Vas-y.
Ouais, bah moi pour la Juve, bah, l'avenir de la Juventus, je suis plutôt optimiste. Quand tu vois l'attaque qu'ils ont, ils ont quand même Amaori, Del Piero en attaque, t'as Trezeguet qui va revenir, à Taya Quinta sur le banc, quoi. C'est quand même impressionnant. T'en penses quoi de cette attaque?
Pour les supporters de la Juve, on pense que l'on a certainement la meilleure attaque d'Italie, peut-être même d'Europe, sans exagérer. Bon, avec, je sais pas, d'Europe, je n'irai pas loin, mais on a probablement la meilleure attaque d'Italie. L'année passée, c'était Del Piero meilleur buteur, avec Trezeguet juste derrière, un petit but derrière. Et Amaury était pas loin dans cette liste. Cette fois, on a les trois dans la même équipe. Malheureusement, Trezeguet a été blessé pour le début de saison, mais il sera de retour dès le mois de janvier. On va voir. Des fois, on verra tous les trois sur le terrain. Le danger va venir de partout. C'est évident, ça va être une grosse menace pour tout le monde. Mais aussi, une équipe, c'est un équilibre. C'est pas seulement des attaquants très forts. C'est un tout, c'est un équilibre. Est-ce que, même avec ces attaquants-là sur le terrain, même avec deux ou trois de ceux-là, comment faire que l'équipe ait régulièrement la capacité de récupérer le ballon, de le garder plus longtemps, je sais pas. Là, il faut avoir un grand tacticien pour ça. Et Ranieri, pour l'instant, n'a pas vraiment démontré être ce grand tacticien. Vas-y.
Ah, mais bon, y a quand même Yakinta sur le banc. Yakinta, c'est pas n'importe qui. Je crois que quand il joue à Levine, c'est ça. Je me trompe pas.
Yakinta, il vient de l'Udinese. En fait, il était approché par beaucoup, par de nombreux clubs. Même c'est le dernier été, il était approché par la Roma, par le Napoli. La Juve n'a pas voulu le vendre et ils avaient raison, parce qu'on ne sait jamais avec le physique. Je sais pas, on a des joueurs. Même si on dit Del Piero, Trezeguet, il y a toujours le risque que l'un d'eux se blesse et à ce moment-là, si t'es pas blindé sur le banc, t'as aucune chance. Donc quand on a des joueurs comme Yakinta, on le garde quand même. Il est très bon, quand il rentre, il apporte ce qu'il a apporté, et en même temps il accepte la hiérarchie qu'il y a devant lui, il accepte le fait qu'il soit remplaçant, mais il attend toujours de jouer. Pour l'instant, il n'a pas fait énormément de matchs, mais il a fait quelques matchs et il me semble être plus ou moins satisfait. Il semble faire partie, voilà, il accepte et il est là l'esprit du groupe qui est le plus important là-dedans.
Ouais, bah c'est quand même un joueur qui n'est pas mauvais, comme tu l'as précisé, loin de là. Donc je pense que cet équilibre dans la Juventus, ils l'ont. Pour moi, l'attaque, ça sera certainement Trezeguet Del Piero, si je ne me trompe pas.
C'est ça ? A priori, oui. Quand Trezeguet sera là, tout sera. C'était comme ça d'ailleurs en début de saison, le premier match contre le Zenit, c'était Del Piero Trezeguet, voilà. Mais il y aura des turnovers, surtout quand on jouera trois matchs par semaine. Del Piero ne fera pas les trois matchs. Même Trezeguet, au moment de son retour, je ne crois pas qu'il voudra faire trois matchs par semaine. Même s'il voudra, l'entraîneur ne fera pas faire trois matchs. Voilà, il y aura toujours du temps pour les autres. Surtout à Amaury. Et à des moments, on va certainement utiliser les trois ensemble. Hein. À l'époque où il y avait Ibrahimovic, Trezeguet, Del Piero, on a souvent utilisé les trois ensemble.
Donc ça restera une attaque quand même assez impressionnante. Hein. Quand tu vois que ta seconde paire d'attaquants, c'est Amaury, Yakinta, bah, excusez-moi, mais c'est pas en France qu'on verra ça, quoi.
C'est pas donné à tout le monde, hein, ouais. C'est évident, hein. Mais en même temps, le plus important, c'est pas seulement avoir de très bons attaquants, c'est que même si on n'a pas seulement de très bons attaquants, au milieu on a Sissoko qui est excellent, il y a Camoranesi, on a un groupe de joueurs qui est quand même impressionnant. À un certain niveau, on s'attend vraiment à perdre aucun match, tu sais, même face à l'Inter, on s'attend pas à perdre du côté des supporters, parce qu'on. Mais en même temps, il y a un équilibre à trouver qui n'est pas évident à trouver. C'est ça le problème, c'est que oui, on a un latéral gauche qui n'est pas vraiment au niveau, Molinaro qui est très régulièrement critiqué. On a un latéral droit titulaire, Zebina, qui est systématiquement blessé. Actuellement, Grieger a fait plutôt bien le travail. Mais en général, il y a un certain problème avec le coach Ranieri. Pendant un moment, il a essayé d'organiser son équipe malgré beaucoup d'absences. On a gagné 7 matchs d'affilée. Après, il faut quand même reconnaître que même sur ces 7 matchs, le jeu n'a jamais été extraordinaire. Même quand on bat la Roma à domicile, c'était la Roma qui avait la possession de la balle. Certes, on avait les meilleures occasions, mais voilà. Le Real, même chose. On gagne chez le Real, on a les meilleures occasions, mais eux, ils ont 66% de possession. Il y a certaines choses à régler, il y a un équilibre à trouver. Et pour l'instant, c'est vrai qu'on ne peut pas reprocher à l'entraîneur de faire avec ses moyens, parce que durant les derniers mois, on a toujours eu 10 joueurs blessés, on a toujours eu environ 10 joueurs blessés, c'est ça. Thiago est toujours blessé, était très bien revenu, s'est blessé dans des matchs contre l'Inter en début de match, et voilà, il reviendra peut-être. Il y a Poulsen qui est blessé, Zanetti qui était blessé, qui vient de faire son retour en Champions. On espère surtout que les blessures vont s'arrêter. Comme Ranesi n'est pas sûr de revenir contre le Milan, c'est surtout un problème technique. Je ne sais pas, est-ce que c'est l'entraîneur, est-ce que ce sont ses méthodes, les entraîneurs physiques, il y a quelque chose qui ne va pas.
Ouais. Bah, mais... Moi, tu vois, de l'extérieur, puisque la Juventus, c'est pas l'équipe que je suivais tous les week-ends, j'ai l'impression, tu vois, que c'est une équipe qui est bien huilée, qui pratique un beau jeu. Mais en réalité, si c'est pas ça, c'est quand même assez bizarre, puisque sur les buts qui marquent, ce sont quand même des jolis buts pour la plupart. Et nous, je vais revenir, tu vois, c'est l'attaque. Enfin, quand tu dis que le collectif est, on va dire, est un peu moyen, ils ont quand même marqué 12 buts en 5 rencontres. C'est pas mal.
Le collectif est moyen, mais je sais pas, sur les, bon, tu enlèves 4 à 8 sur 4 matchs, je sais pas, 12, ouais, ça fait quand même beaucoup de buts, t'as raison, mais voyons, sur les derniers matchs contre, en champion, c'était pas, il y avait pas grand chose. Quand ça attaque, oui, ça attaque très bien. On voit des jeux en triangle entre Del Piero et Mauri. C'est évident, on a de très grands techniciens devant. Ça peut faire de très belles choses. Mais ça se passe par moments. Même ces attaquants-là, ils sont pas souvent touchés. C'est ça le problème. La saison dernière, on avait Del Piero très aigué devant, mais il y avait des matchs où aucun des deux ne pouvait toucher un véritable ballon dans la surface. Del Piero devait à chaque fois descendre 50, 60 mètres pour toucher le ballon, essayer de faire lui-même remonter ce ballon. Ensuite, c'est pas évident de trouver une solution. Il y a très aigué qui est scellé entre 3, 4 joueurs. Il y a un problème dans la création à partir du milieu. On a essayé d'enrôler Xabi Alonso cet été pour régler ça. Finalement, on a fait du n'importe quoi. À un moment donné, ils se sont dit, on va essayer de prendre Aquilani, le joueur de la Roma, et si ça marche pas, on reviendra sur Alonso. Et du coup, Alonso s'est vexé, il a fait demi-tour, il s'est mis d'accord avec son coach Benitez pour ne plus venir. Finalement, on n'a pas pu enrôler Aquilani. On s'est retrouvé enfin avec Poulsen, qui était quand même un petit peu satisfaisant pour moi. Il a été même très satisfaisant par rapport aux attentes, parce qu'on n'attendait pas grand chose de lui. Et ça va. Vas-y.
C'est quand même impressionnant que tu dises ça, puisque derrière, t'as quand même des joueurs comme Pavel Nedved, qui n'est pas la dernière planche, mais, et t'as la Promeja Atomica, qui est Kwawinko, qui m'a impressionné aux Jeux Olympiques. Donc, que tu dises que derrière, ça manque de créativité. Jovinko.
Je sais pas, Jovinko, il a pas été utilisé. Jovinko aussi, il y a un gros souci avec Jovinko. Jovinko c'est un peu comme, je sais pas s'il y a un, je crois même pas qu'il y a un joueur, qu'il y ait déjà un joueur comme lui, je sais pas. Si je veux donner un exemple là, dans le foot français, il y aurait peut-être le Ben Arfa de Lyon l'année passée qui est bon en percussion, mais qui se replace pas pour un ailier gauche. Voilà, Jovinko pour un ailier gauche, il sert à rien défensivement, c'est ça. Il est tellement léger, il peut pas récupérer un ballon et il sait pas se replacer. Et ça, c'est un gros souci si tu le mets sur le côté. Donc, Jovinko, il a fait ses meilleurs matchs quand on l'a mis attaquant attaquant de soutien lors de contre Lecce, c'était, il était à côté d'Amaury, c'est ce jour-là Del Piero et Aquinta étaient tous les deux suspendus, voilà. Sinon, il avait fait un bon match contre Catane, en jouant ailier gauche. Ce jour-là, Sissoko avait fait des miracles au niveau de la récupération pour compenser le fait que Jovinko n'en revient jamais et ne sert à rien défensivement. Et ce jeu, voilà. Peut-être qu'avec Sissoko Zanetti, si Zanetti revient en forme, avec Sissoko Zanetti au milieu pour récupérer, on peut peut-être risquer de mettre Jovinko, on peut mettre Jovinko sur un côté. Mais autrement, je sais pas, c'est pas évident. Il y a un match contre le Batia Borisov, on avait mis Nedved au milieu comme récupérateur et Jovinko ailier gauche à la place de Nedved. Ce jour-là, Jovinko a fait deux passes décisives, mais avant ces deux passes décisives, on avait déjà pris deux buts. Ça fait deux partout chez le Batia Borisov, c'était vraiment une catastrophe. Vas-y.
Puis pourquoi pas au milieu, comment il s'appelle, Colo Touré, qui on annonce à la Juventus, à ton avis, tu y viendras ou viendras pas?
Yaya Touré. Colo Touré.
Yaya Touré.
Yaya Touré.
Yaya Touré, effectivement. Yaya Touré.
Ouais. Yaya Touré du Barça. Yaya Touré, je sais pas, en fait, Yaya Touré, le problème, je sais pas si c'est un joueur fait pour le championnat d'Italie parce que il est très bon, il est pas mauvais physiquement, c'est un joueur qui percute, qui marque des buts, mais je sais pas si. Je sais pas trop, je suis pas trop rassuré. Enfin, je sais pas. Je connais pas très bien le joueur. J'avais vu des matchs avec Monaco il y a 2 ans. C'était à côté d'un.
De c'était Pérez. Si je me
trompe pas, à côté de Diego Pérez, c'est ça? L'Uruguayen ouais. qui est très défensif. Et donc, lui, il était en quelque sorte un milieu meneur déjà à la fois. Chez nous, oui, à côté de Sissoko, ça peut être à peu près la même chose. Mais je sais pas, en Italie, il faut quand même un peu plus, je sais pas, un peu plus. Il faut défendre un peu plus, surtout à la Juve, je sais pas.
Ah, pour te rassurer, dans tous les championnats où il est passé, on va dire qu'il a réussi, quoi. À l'Olympiakos, il a réussi. À Monaco, il a plus ou moins réussi. Et à Barcelone, il est en train de réussir. Donc, à mon avis, il a toutes les chances de
s'imposer. S'il réussit vraiment à Barcelone, s'il réussit vraiment à Barcelone, on n'a pas de grandes chances de l'avoir du côté de la Juve, tout ça.
Et c'est juste que devant, il y a des joueurs
qui ont de meilleurs salaires. Ils payent de meilleurs salaires du côté de Barcelone. Je suis pas sûr qu'ils ont moins de taxes aussi.
Ah bah, c'est pas l'argent qui fait tout.
Ah, je sais pas, c'est pas pour lui. Si pour lui, ah bon, s'il préfère les montagnes de Turin, je sais pas, les Alpes. Ok, il pourra faire du ski.
Sinon, bah, il y a Buffon qui va revenir. Buffon qui a refusé 70 millions, non 100 millions, à une offre de Manchester City mirabolante. Donc Buffon qui va revenir à la place de Maninger, ça va être une bonne nouvelle pour la Juventus à mon avis.
Voilà. Ouais, c'est certainement une bonne nouvelle. Maninger est très bon, on n'a absolument rien à lui reprocher durant les 2 mois qu'il a joué. Il est totalement irréprochable, on a gagné la plupart des matchs d'ailleurs. Mais en fait, il y a quand même quelque chose. C'est que avec Buffon, c'est une autre histoire. Les défenseurs sont plus rassurés, qu'il n'est pas allé pas attaquer carrément parce que il est un peu plus en confiance. Hein. C'est ça. C'est avec Buffon derrière, c'est certainement autre chose. Ça.
Et tu m'as aussi surpris quand t'as dit que Zebina il était titulaire parce que bon l'année dernière.
Zebina a pris. Il n'a pas joué beaucoup, mais Zebina a priori il est titulaire. Le problème c'est qu'il est tout le temps blessé. Il n'est jamais là pour qu'on sache. A priori, la saison dernière, Zebina était titulaire en début de saison. Il a giflé pas seulement giflé, il a fait de la boxe à un photographe lors d'un match en début de saison contre Cagliari. Il a pris donc une suspension de 3 matchs. Puis ensuite, quand il est revenu de sa suspension, il s'est blessé. Et puis, il a enchaîné les blessures. Voilà. C'était pour ça qu'il n'a pas joué.
Parce que alors, je croyais qu'il était en train de tirer le banc.
Non, il ne sert pas le banc, il est juste blessé. Il est juste tout le temps blessé.
Tout comme Jordi Andrade.
Andrade, ouais. Andrade, lui, il était blessé du côté de la couronne, je ne sais pas pourquoi on l'a recruté. C'était juste un truc médiatique, ou je sais pas pourquoi ils l'ont recruté. Oui, honnêtement, tout le monde savait qu'il était blessé, qu'il allait pas revenir. Il nous a fait un match, une bonne mi-temps contre la Roma. Il s'est blessé à la fin de cette mi-temps. Et depuis, on l'a plus revu, c'est ça. C'était en septembre 2007, c'est ça.
Oui, il a failli signer à Monaco, mais bien entendu, il s'est blessé avant de signer. Après. Bon, bah, avant de passer à la Roma, je vais te demander une question. À ton avis, la Juventus, ça sera un outsider sérieux cette saison en Ligue des Champions et dans le Scudetto, enfin dans toutes les compétitions?
Alors, moi je suis de nature optimiste, hein, j'ai confiance en ces gars-là avec la arme qu'ils ont, la rage qu'ils ont, ils peuvent faire mal à tout, à n'importe qui. Et voilà, maintenant j'espère de tout cœur qu'on va pas tomber sur Manchester United. Bon, de toute façon on peut pas tomber sur Manchester, qu'on va pas tomber sur Chelsea parce que c'est la deuxième équipe qui fait peur en Champions League. Pour le reste, oui, on peut battre n'importe qui. Le Barça est premier, c'est bon. Ok, donc la Juventus est premier, donc si on tombe pas sur Chelsea, on est favori et ça peut aller. Ah, il y a Lyon peut-être.
Et voilà. On n'a pas parlé de cette journée qui va arriver avec le match recevant le Milan.
Milan. Ah, oui. Contre le Milan, qu'est-ce que je vais dire? Alors, la Juventus retrouve quelques-uns de ses blessés. Il y en a des tonnes. On va probablement retrouver Zanetti en forme, lui qui a joué contre. On va retrouver Sissoko. Et on va retrouver la copie Allegro Tallier, qui est ligne derrière. Ça s'annonce plutôt bien. On va peut-être aussi retrouver Brazos, Hassan Salihamidzic, l'ancien Bavarois qui avait marqué un doublé contre le Milan la saison passée. Et on va même peut-être retrouver, et là c'est moins sûr, Mauro Camoranesi, qui aurait dû jouer contre l'Inter mais qui n'a pas joué ce match-là, incompréhensiblement. C'est un match qui s'annonce bien pour la Juve. Vas-y, pour le Milan. Ouais.
Ah bah le Milan, j'ai vu leur dernier match, je crois que c'était contre Lecce ou un truc comme ça. C'était pas glorieux, c'était une équipe qui avait de la difficulté dans le jeu, qui manquait cruellement de créativité malgré les Brésiliens. Donc moi je pense que la Juventus peut gagner ce match. Hein. Mais il faut toujours se méfier de la qualité des joueurs du Milan qui sont toujours capables d'un coup de génie.
Et puis il y a aussi Gattuso qui est blessé.
Gattuso, il va avoir 5 mois de blessé, il va avoir 5 mois d'absence, hein, c'est pas demain qu'il revient le pauvre. Et en plus Gattuso de toute façon pour ce match il était suspendu. Tout comme finalement les Grottali, je crois que c'est confirmé ça. Ouais, il paraît que la suspension de les Grottali est confirmée. Donc la Juve sera privée finalement de les Grottali, on aura Melberg en qui va jouer en défense. Wow. Du côté du Milan, ils ont eu peur pour Kaka aujourd'hui, mais finalement, il n'y a pas de souci. Il sera de la partie, tout comme Ronaldinho, Pato, Inzaghi et Shevchenko seront aussi disponibles, mais certainement sur le banc, partiront certainement du banc. Pour Gattuso, il y a Flamini quand même qui est là pour s'y plier. Il y a Flamini, Pirlo, Ambrosini, c'est pas n'importe quoi.
Et puis il y a le vice-président milanais qui a dit. À chaque fois qu'on a gagné chez la Juve, on a remporté le Scudetto dans la foulée.
Scudetto. La dernière fois qu'ils ont gagné chez la Juve, c'était leur dernier Scudetto, justement, en 2004. Ils avaient gagné 3-1 chez la Juve, mais là, c'était vraiment une Juve totalement décimée. C'était vraiment l'une des pires saisons pour la Juve. C'est vrai que le Milan, à chaque fois qu'il gagne à terrain, il remporte le Scudetto derrière, mais pour le nouveau stade, celui dans lequel on joue actuellement, le Torino, en fait, la dernière fois qu'ils ont ce stade avant d'être baptisé, c'était le Comunale. On a joué seulement sur ce stade de l'année dernière. On a gagné 3-2, mais avant, ils n'avaient plus gagné depuis des années, depuis je crois 40 ans, quelque chose comme ça, parce que c'était le Comunale.
Donc voilà, comme tu dis. C'est un vrai classico ce match-là, quoi. On peut dire avec bien sûr le doublé de, il y avait un doublé de Seedorf et un but de Shevchenko. Voilà. Donc, C'est pas mal de
Shevchenko de la grande époque, hein.
Exactement.
C'était le grand Shevchenko.
Ballon d'or, il me semble, en 2004. En fait.
Ouais, il a fait le ballon d'or dans la foulée. Ouais. Là, cette saison-là, il avait été extraordinaire. Surtout lors des gros matchs contre la Juve, contre la Roma de Capello, à l'aller et au retour, il avait marqué des doublés à chaque phase. Merci aussi à un grand Rui Costa qui lui avait donné, je crois, 80% de ses buts en championnat. 70%, je sais plus.
Parfait, tu parlais de la Roma, et ben on va y aller tout de suite.
On va y aller.
Donc, et ben vas-y, parle-nous un peu de la Roma, son parcours en Ligue des Champions, son championnat qui est. La Roma qui revient un peu, hein, on va dire. Contre Bordeaux, beaucoup de gens espéraient que Bordeaux fasse quelque chose. Et puis bon, un peu comme la Fiorentina ou un peu comme ces équipes un peu en Italie ou chez elles, quand elles veulent vraiment s'y mettre, elles s'y mettent. Et bon, il n'y avait pas le capitaine de la Roma. Il était là et puis il y a eu un. On n'avait plus entendu beaucoup parler de Menez sauf ces derniers temps. Et puis ben là, dans ce match-là, il a fait le boulot, comme on dit. Il a réalisé un bon match, n'en déplaise au Monégasque.
Non, pas du tout. Je ne me sens pas visé.
Ouais. Donc, eh ben, allez-y, réagissez par rapport à ça. La Roma en Ligue des Champions, le championnat. Là, la Roma qui va jouer le Chievo Vérone.
Non, la Roma va jouer Cagliari. La Roma a battu le Chievo la semaine passée avec un but justement de Jérémy Menez. Mais ils joueront Cagliari ce week-end.
Justement, un but très important de Menez qui a été.
Il a été excellent lors de ce match là samedi. Il avait fait un très bon match. Il avait eu des 8 sur 10 partout sur la presse italienne. Mmh. Il romanista s'est mis au français pour écrire Menez chapeau. Ça a été sa semaine, même contre Bordeaux. Il a fait un très bon match, notamment là, autour d'une belle passe décisive de l'extérieur pour. L'extérieur des pieds pour. Cesco Totti, capitaine, lors d'un match que je sais pas contre Bordeaux, pour ceux qui l'ont vu, la Roma n'a pas vraiment dominé. Bordeaux avait pratiquement 60% de la possession. La Bordeaux avait de très bonnes occasions avec Bellion, notamment fin de match à 1-0.
Et puis vers la fin aussi, vers la fin où je sais plus quel défenseur déborde. Au lieu de faire un centre en retrait,
Jurietti, c'est Jurietti, au lieu de faire un centre
on sait pas trop quoi, et c'est vrai que ça aurait pu être dangereux parce qu'on sait que les centres en retrait c'est l'arme fatale de buteur, quoi.
C'est d'ailleurs sur un centre en retrait que de Perota que Briga avait ouvert le score pour la Roma. Ouais, la Roma a vraiment fait preuve d'un grand réalisme lors de ce match-là contre Bordeaux. C'est vrai aussi qu'ils ont très bien défendu derrière avec Mexès, avec De Rossi notamment, et Doni, le gardien qui fait de très bons matchs en ce moment. La Roma est maintenant elle est dans une bonne série, tout se passe bien depuis quelques journées. Ils ont terminé premier de leur poule en Champions, et là tout semble rentrer dans l'ordre. Je crois que Cagliari n'a aucune chance là.
Ça coïncide peut-être avec le retour du capitaine Francesco Totti.
Ouais, en partie aussi, ça doit certainement jouer parce que c'est... ça met en confiance tout un groupe. On sait
que c'est un monsieur important, et ben la Roma qui, après avoir battu Lyon en 2006-2007, le encore un club français cette année chez elle.
Bordeaux. Ouais. Ça après ils avaient battu Lyon en 8e de finale 2007, ouais, mais ça s'était très mal passé pour eux par la suite. Ils avaient battu Manchester à l'aller, mais ils ont pris un 7 ans en retour. En fait, cette année, ils ont aussi battu un club anglais avant, Chelsea 3-1. Et finalement, ils auront perdu seulement à Chelsea, et lors du premier match, la catastrophe contre Cluj, le match où les Romains disent qu'ils n'ont pas joué à domicile parce qu'il y avait tellement de Roumains au Stadio Olimpico. On sait que la communauté roumaine est énorme en Italie, particulièrement à Roma. Et ce jour-là, ils s'étaient fait entendre au Stadio Olimpico. Cluj avait gagné, mais finalement, Cluj n'avait quand même pas le poids dans cette poule. Et Bordeaux aussi n'avait pas vraiment assez de poids pour aller en 8e. Au final, la Roma pourrait bien retrouver Lyon en 8e pour une revanche pour l'Olympique Lyonnais peut-être.
Ouais. Vas-y. Ouais, la Roma, je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais je la trouve moins spectaculaire, mais tactiquement, elle est presque irréprochable, quoi, parce que contre le match contre Bordeaux, ils avaient laissé aucun espace à Gourcuff, les ailes, on n'avait pas vu les deux ailiers qui étaient Gouffran et Wendel. Enfin, tactiquement, j'ai l'impression que c'est pas loin du parfait. En plus, devant, ils sont efficaces. Donc ouais, la Roma, il faudra la prendre au sérieux dans l'avenir.
Absolument, c'est ça, ils ont eu un passage difficile, mais depuis tout se passe très bien. Je crois que voilà, s'ils reviennent au niveau qui était le leur en début de saison passée ou celle d'avant, ils sont vraiment très forts, ils peuvent même en fin de saison passée, ils peuvent aligner, faire du très bon jeu de passe et tout, et créer énormément de danger et surtout ils ont la capacité de marquer beaucoup de buts avec Totti, Pusinic, maintenant Menez, qui va peut-être continuer sur sa lancée. Nous les lui souhaitons évidemment.
Exactement, et puis bah, pour revenir à Menez, il y a Totti qui dit que Messi, peut-être le nouveau Menez, peut-être le nouveau Messi. C'est pas un peu trop gros comme déclaration ça pour vous?
Je sais pas, vas-y.
Pour moi, bah, l'année dernière, enfin, il y a plutôt deux ans, parce que l'année dernière, honnêtement, il avait rien fait, mis à part contre deux matchs contre Le Mans et Metz. Mais il y a deux ans, je me souviens qu'il avait fait des actions qui étaient de niveau international, notamment contre Nancy, où il avait dribblé toute la défense, mais il avait raté son face-à-face. Ça aurait fait, peut-être le même but que Maradona, contre le terre. Mais personnellement, le comparer à Messi, c'est trop lourd. Enfin, c'est mon avis, il a pas la même technique, la même percussion que Messi, qui est largement au-dessus du lot.
Ouais, je crois que on aime s'enflammer du côté de Rome. Ben Totti, je sais pas, ça lui plaît quand même. Il le voit de plus près et peut-être qu'il connaît pas assez Messi. Hein,
la Roma qui
mais...
est 13e, hein, qui se trouve à 7 points de la 4e place. Et donc oui, il va jouer
avec
Cagliari. Ouais,
mais avec un match en retard, hein, avec un match en retard pour la Roma donc.
C'est ça. Et puis elle est comme tu dis, hein, elle est en bonne forme en ce moment, puisqu'elle reste sur 7 victoires en 8 matchs, toutes compétitions confondues. Donc c'est une bonne statistique quand on sait que le début de saison a été vraiment catastrophique, puisqu'ils étaient dans le fin fond du classement de cette Serie A.
Alors.
Ouais, ils sont revenus dans la compétition. Hein. Pour moi, c'est fait. Ils se sont relancés. Maintenant, il y a quelque chose. Soit ils vont continuer sur cette liste, soit ils vont pas y arriver. Mais je crois que, pour moi, je crois vraiment qu'ils vont y arriver, parce que si on voit les matchs qui viennent contre Cagliari, s'ils gagnent ce match-là déjà, ils réduiront certainement encore davantage l'écart. Si on voit les équipes qu'il y a devant, il y a Napoli et la Fiorentina ce week-end qui vont avoir des matchs plutôt lourds, plutôt difficiles pour la Fiorentina, surtout qui avait un match qui vient d'un déplacement en Roumanie. Il faut jouer le Catania qui est vraiment très compliqué à jouer. Je sais pas, la Roma a une chance quand même de se rapprocher un petit peu plus, et par la suite on sait pas, ils peuvent même venir taquiner la Juve, le Milan et voilà, le top 3. Est-ce que l'Inter maintenant va se mettre à perdre des points et laisser le monde revenir, on ne sait pas. Pour l'instant, l'Inter est assez tranquillement installé. Avec 6 points d'avance sur la Juve et le Milan, ça va être long de toute façon le championnat. Et l'Inter n'a pas encore joué les 3 lors des matchs retour. Ça, je crois qu'on est fait.
Allez-y. Ah bah, pour revenir visiter sur la Roma, à ton avis, ça fera comme le Milan l'année dernière, où ils vont disputer la 4e place avec la Fiorentina jusque la fin de saison, et finalement ils vont finir 5e. Ça va être une déception, mais ça va devenir comme ça, à ton avis?
En fait, il y a un truc qui avait énormément gêné le Milan l'année passée, c'était la Coupe du Monde des clubs qui avait coupé le Milan dans son élan de retour, justement. Et voilà, le Milan avait d'ailleurs gagné cette Coupe du Monde des clubs, mais au final, quand le Milan est revenu, ils avaient perdu beaucoup de points, ils ont eu quelques matchs reportés qui se sont joués tous des mercredis, ça leur a fait trop de matchs pour des joueurs pas très jeunes. Je crois que la Roma, c'est un cas tout à fait différent. Ils ont largement de quoi asserrer cette quatrième place.
Surtout que la Fiorentina cette saison, c'est pas celle de l'année dernière, pour le peu de matchs que j'ai pu voir de leur part. Hein.
Ouais. La Fiorentina a gagné un Gilardino qui se révèle être un excellent buteur, on le savait, mais on avait un peu oublié avec tout son séjour sur le banc milanais. Maintenant, la Fiorentina n'a pas encore enchaîné de gros matchs, mais jusqu'à présent, quand on sait qu'ils ont été chercher un nil 2-2 contre Lyon, ça c'était un match. C'était peut-être leur meilleur match jusqu'ici. Ils ont fait un partout avec la Juve en début, ils ont fait 0-0 avec l'Inter. Mais le problème de la Fiorentina, c'est un peu la régularité, parce qu'ils n'ont pas une profondeur de banc, et avec la Champions, avec la Coupe de l'UEFA qui va venir derrière, ça va être un peu plus compliqué pour eux de tenir, de gagner tous les week-ends en championnat, contrairement à la Roma qui est un peu plus habituée à cela.
Ouais, bah, sans transition, vu que tu as parlé de Lyon, bah, je pense qu'on va parler du club de Lyon en Ligue des Champions. On va pour résumer vite fait, Lyon contre le Bayern, ça a été une mi-temps cataclysmique et une mi-temps euphorique. Hein. Ils ont pris 2-3 buts contre un Bayern qui n'avait pas l'air de forcer la main, mais c'était surtout Lyon qui n'était pas présent. Et en deuxième mi-temps, une réaction énorme de la part des Lyonnais qui ont certainement fait leur meilleur mi-temps, à mon goût, depuis sous l'ère Puel, quoi. Alors, je vais vous poser une question. Pourquoi, à votre avis, Lyon attend d'être mené 2-3-0 pour commencer à jouer, comme on a pu voir contre la Fiorentina ou contre le Bayern?
C'est vrai que depuis qu'il y a Claude Puel, on n'avait pas connu ça, par exemple, avec Paul Le Guen ou... Disons avec Paul Le Guen ou même avec Santini, c'était un peu ce type où Lyon jouait par rapport à jouer avec réaction au lieu de l'action. C'est-à-dire qu'ils attendaient d'être menés pour ensuite réagir. Là, on n'est plus dans une réaction un peu comme Puel, même si les deux entraîneurs n'ont pas du tout la même vision des choses, que ce soit tactiquement, puisque Santini ne jouait pas par exemple avec le fameux 4-3-3 instauré depuis pas mal de saisons, puisque c'est Paul Le Guen qui avait mis ce schéma tactique pour Juninho qui est arrivé en fin juillet 2001 du Brésil. Et puis c'est vrai que avec Paul Le Guen qui arrivait surtout dans la deuxième saison à tenir le score, c'est-à-dire que on voyait bien c'est là où on a commencé à parler de rouleau compresseur. Et c'est vrai que ensuite il y a eu Gérard Rouillet
qui est jouable, hein, parce que le match contre Manchester United l'année passée, lui avait fait quelque chose d'extraordinaire pendant 88 minutes quand même, marquer un but et tenir Cristiano Ronaldo, Rooney et tout ça. Ça avait été presque le match parfait. Avec Anzoros, c'est vraiment une autre histoire.
Exactement.
Pour revenir sur la défense, je suppose que vous avez regardé Lyon-Bayern, mais Gassama contre Ribéry, qui est, bon, on va dire que Ribéry, c'est un joueur de niveau international, mais Gassama est à la référence. Franchement, Gosso, il manque à la défense. Donc,
il y a Gassama, il y a Claire. Ils ont du monde à l'infirmerie, hein. Il y a Claire aussi, il y a même Réveillère, je crois qu'il s'est blessé récemment.
Voilà, Claire, il va revenir dans, je pense, vers début février, fin janvier, début février. Et Réveillère, c'est fin de saison pour lui, c'est terminé.
Voilà. Le pauvre François. On lui souhaite bon rétablissement, petit François, quand même. Hein.
Donc, c'est vrai que latéral gauche, il en faut. Voilà quoi. Donc, c'est un chantier. Puis, quand on sait que les recrues du mercato d'hiver ne se sont presque jamais intégrés réellement à l'équipe ou n'ont jamais apporté vraiment ce qu'ils voulaient. Moi, je me souviens de ce fameux Kleber Anderson, hein, Voilà, on sait où est-ce qu'il est maintenant, hein, il est reparti au Brésil. Donc voilà quoi, c'est cette année il y a un gros banc, mais il faut dire que lui on n'a pas été épargné par les blessures, hein, un peu comme d'autres équipes. Tu parlais de la Juve, hein, avec Trezeguet et ainsi de suite. Ben c'est vrai que on parlait aussi de Milan avec
du Real aussi.
Voilà, exact. Le Real aussi, c'est vrai. 5 ou 6 blessés et d'importance. Donc ben moi je vois pas du tout Lyon passer encore une fois ce quart de finale. Voilà. Ce huitième, pardon.
Ça dépend l'équipe qu'ils vont tirer, parce que Panathinaikos ne me dit pas que c'est pas abordable pour Lyon, quoi. Sinon ça serait vraiment inquiétant pour le niveau de la Ligue 1 que sa meilleure équipe ne peut pas battre le Panathinaikos, quoi. Bah, écoute, sans les offenser.
Tu sais avec Lyon ce qui est difficile, c'est que on sait jamais, c'est-à-dire qu'ils sont capables du pire comme du meilleur. Ben ça rejoint un peu ce que tu disais dans cette phrase. Voilà, du pire, ils ont fait la première mi-temps et pratiquement le meilleur, il manquait plus que les occasions soient converties en but et ça refait un beau match, un peu comme cette fameuse troisième journée où Lyon était parti à Bucarest avec le match qu'on sait, un 5-3. Sauf que Bucarest, ça n'est pas le Bayern.
Bon, le Bayern, ils avaient comme un gardien qui était en difficulté depuis le début de saison. Et puis là, il te sort un grand match.
Un très bon match.
C'est plutôt un coup du sort pour Lyon que voilà, quoi. Donc, c'est une défaite plutôt imméritée.
Exactement.
En fait, sur la première mi-temps, le Bayern a surtout frappé par réalisme, avec des occasions qui ont converti immédiatement, alors que Lyon touche un poteau. Il y a une occasion, juste après le premier but, il y a une occasion de Benzema sur un service de Mounier qui met 1 cm à gauche au lieu de la mettre 1 cm à droite. Voilà, il y a pas été réaliste. Les Lyonnais n'ont pas été réalistes, mais ils ont quand même fait une deuxième mi-temps énorme. Et ils ont très bien pu faire le match.
Il y a quelque chose que j'aimerais que vous parliez de ce fait de match qu'il y a eu, c'était quand il y a eu la Fiorentina, les cartons jaunes explicites de Juninho et de Chris pour revenir à zéro, même s'ils ont eu une amende
de 15 000 euros. En fait, ça leur permet quand même d'être sûr de jouer les huitièmes de finale.
Surtout d'être à zéro pour pas être suspendu, parce qu'on se souvient que Juninho, par exemple, au match... retour face à la... Non, c'était au match aller face à la... C'était au Milan AC, justement, qui n'avait pas pu...
Ouais, il avait eu un carton jaune lors du match aller contre Milan, 0-0, puis il n'a pas pu jouer à Milan au match retour, c'est ça?
Il avait joué au match retour, puisque
il avait manqué le match aller, c'est ça?
Le match aller n'avait pas été joué. Ouais.
Ah, okay. Quand on sait il avait pris un carton contre le Werder, cette année-là, il y avait... Vous aviez bâti le Werder
7-2, ouais.
Ouais, 7-2, ouais.
Quand, justement, vous voyez, c'est marrant parce que quand on parle un peu de ces scores, 7-2, vous y voyez, vous, Lyon, là, faire un score comme ça cette année? Pas du tout.
Non, donc, mais en 2005, Lyon était quand même très fort, hein, avec Essien et Diarra au milieu. Lyon était très, très fort.
Malouda à gauche.
Lyon était meilleur que Milan. Hein.
Malouda.
Sur le poteau, c'était vraiment un très très bon Lyon. Malouda était un très très bon joueur à l'époque.
Exactement, il y avait Wiltord, hein, qui était arrivé en 2004 en provenance d'Arsenal, qui avait fait énormément de bien dans ses prises de balles. Moi j'adore ce joueur, Wiltord, et qui venait d'Arsenal. Bon, il est parti dans des termes un peu difficiles, hein. Il est parti à Rennes.
Ouais.
C'est vrai que ce joueur-là a fait beaucoup de bien par son expérience. Puis ben il y avait Govou, il y avait bien sûr Abidal, il y avait quand on fait un peu de temps, c'est vrai que ça paraît incroyable et ben on se dit que cette hégémonie lyonnaise est en train de disparaître et au lieu de on se fait à chaque fois Lyon se fait piler, va piler à son tour le championnat de Ligue 1. Voilà, on parle de Bastos à Lyon, on parle de Rami. Des joueurs
de
du LOSC.
De Nkoulou.
Donc,
de Nicolas Nkoulou.
Exactement. Donc, je sais pas ce qu'on. On a, en fait, voilà, pour Lyon, pour résumer, on est partagé puisque d'un côté ils sont capables du très très bon et d'un autre côté ils peuvent être vraiment mauvais. Bah, quand on voit le match de Bordeaux, bah, je peux vous dire que beaucoup de gens voyaient Bordeaux gagner. Et puis on a vu que Benzema et Fred, on les voyait pratiquement pas. Et puis vers la 30e, c'est un service de Fred pour Benzema qui ne rate pas une seule occasion. Hugo pour l'attaque.
Ouais. Sur l'attaque, peut-être qu'on verra pas de 7-2 cette année à Lyon, mais faut pas les enterrer tout de suite. Hein, quand tu vois le niveau quand même qu'ils ont pratiqué en deuxième mi-temps contre le Bayern, s'ils jouent comme ça tout le long d'un match, à mon avis, ça peut faire très mal.
Deux saisons, oui, c'était encore pire. C'était vraiment plus qu'un rouleau compresseur. Et puis il y a eu bien sûr l'année dernière avec Alain Perrin qui jouait quand même l'attaque un peu plus que la défense, ce qui n'a pas empêché de gagner un doublé Coupe Championnat. Mais c'est vrai que Claude Puel, c'est une autre vision des choses. Et c'est vrai qu'on a du mal à comprendre comment ça se fait que cette équipe lyonnaise réagit au lieu de jouer son jeu tout simplement et d'attaquer, de défendre. Et on sent qu'il y a un vrai souci. Je sais pas si c'est par rapport au choix tactique, puisque Puel le disait à tout moment, de ce qui est bien avec les joueurs qu'on a, c'est que peu importe, en plein milieu de jeu, on peut changer de schéma tactique complètement. Donc peut-être que c'est ça, peut-être que c'est le mental, peut-être que Lyon insiste plus sur la Ligue des Champions cette année. Mais quand même, quand vous voyez que parce que moi j'ai un vrai coup de gueule à passer par rapport à ça, quand on voit qu'en championnat il y avait ce fameux match Nantes-Lyon qui était prévu initialement le dimanche, que la LFP n'a rien voulu savoir jusqu'à ce que Aulas parle un peu et la LFP qui décide de recaler le match à samedi. Quand on voit ce qui s'est passé juste avant, qu'il y avait eu ce problème à Lyon-Valenciennes avec pas mal de pluie, un match horrible pour le spectacle. Quand on voit aussi que Lyon n'a pas démérité contre Nantes, je sais pas du tout ce qui s'est passé. Quand on voit que c'est Klachnik qui est un buteur qu'on voyait pas du tout, et qu'en plus on voit quand c'est pareil dans Nantes dans ce match là on voit une bonne première période de Lyon qui domine sans pas outrageusement, mais qui fait le métier, on va dire, justement avec un but de Piquion, son premier en Ligue 1, on va dire, avec Lyon. Et pour parler de Piquion, sachez que vous savez qu'il y a le ballon d'or et puis il y a le ballon de plomb. Le ballon de plomb, c'est vraiment le trophée le moins prestigieux du football européen.
Totalement l'opposé. Hein.
Voilà. Le ballon de plomb, c'est un truc des cahiers du foot.
Exactement. Et celui qui a été élu devant Ronaldo Zubar et les deux Brésiliens Everton Souza, c'est Frédéric Piquion. Voilà. Donc, c'était juste pour annoncer ça, quoi. Donc c'est sorti officiellement là tout à l'heure à 20h, donc il y a un peu plus de 2h, qui s'était comparé à un esclave lorsque les Verts s'étaient opposés à ses velléités de départ. Et donc les cahiers du foot qui dit comme si que le club rodanien ne gagnait pas ses titres, c'est Frédéric Piquion qui coiffe ses concurrents au poteau. Donc c'est vrai que c'est l'attitude un peu de l'ensemble de Piquion qui a fait qu'il a été nommé plus qu'un Ronald Zubar qui avait des problèmes défensifs, on va dire, et qui s'était fait siffler, ainsi de suite. Ensuite, les deux Brésiliens, c'était des choix de carrière. Mais c'est vrai que justement le fait qu'il ait été le ballon de plomb, ça fait quand même ça doit faire quand même réagir, je pense, puisque les précédents, c'était Bernard Mendy en 2006 et c'était Matt Mussolini en 2007. Donc c'est, je sais pas si c'est de bon augure pour l'Olympique Lyonnais. Je vous laisse
c'est
réagir
au niveau, très haut niveau, hein.
Exactement.
avec Super Matin Silou qui marque contre Monaco et Monsieur Bernard Mendy qui est parti à Hull City jouer sur le banc. Bravo.
Il marque des buts hein, du côté de Hull City. Il a marqué contre United, contre Manchester United, il y a quelques semaines, je crois.
C'est ça.
Au moins, il aura pu dire que j'ai marqué contre United dans ma vie. Hein.
Ah ouais. Et il y a un autre truc dans son palmarès, il avait débordé Roberto Carlos lors du match amical. Là.
Ah oui, c'est vrai. qui a valu quand même sa seule sélection, d'ailleurs, en équipe de France. Bah après, c'est vrai que c'était une chute, mais c'est vrai que pour venir à Lyon, bah voilà, on a un peu de mal à savoir. Déjà, on doutait un peu de ce schéma 4-3-3 qui, pour moi, a fait son temps, je pense. Il y a le 4-4-2 de Claude Puel. On disait que Juninho ne rentrait pas dans ses plans, finalement si, puisqu'il y avait deux attaquants, Fred Benzema ou Fred Epikian. Donc bah, pour l'instant ce schéma tactique n'a pas fait trop son choix. Et puis ben en défense il y avait eu ce problème avec Chris, il y a Boomsong, il y a Mensah et Boomsong qui tournent un peu. En fait dans cette équipe lyonnaise c'est un peu le bordel. Et puis ben comme tout n'arrive jamais sans rien, il a fallu perdre ce match de Nantes que Marseille gagne en championnat pour que le championnat soit carrément relancé. Et j'ai un truc qui me fait rire, c'est que justement il y a une statistique énorme, c'est que dans les années précédentes, quand Lyon avait 5-6 points, il lâchait plus rien. À partir des 10 premières journées jusqu'à la fin, c'était Lyon qui faisait un parcours, il gagnait des points le plus possible. Déjà c'était, je me souviens de Gérard Houllier qui avait fait, je crois, dans la première partie de saison, 52 points. Ça veut dire que ils avaient fait un seul match nul, que des victoires. C'était.
Ils n'étaient presque champions. Hein.
Exactement. Ils n'étaient pas encore champions, mais c'était énorme. Que des victoires pour un seul match nul. Je ne sais plus contre quelle équipe. C'était vraiment énorme. Et puis ben, on a vu qu'en deuxième partie, ben, il y a eu pas mal de défaites. Je crois 4 défaites en championnat. Il y a eu l'élimination en Coupe de France par Marseille, il y a eu l'élimination en coupe de la Ligue très très vite. Et la Coupe de la Ligue c'était avec Bordeaux, je crois.
Ouais.
Je crois que c'était avec Bordeaux. C'était dans la finale, ouais, exactement. La finale avec le but d'Enrique de la tête. Ouais. Et donc bah, Marseille qui va à Gerland. Gerland qui était invaincu jusque là à domicile. Et qui s'est fait battre par le Bayern avec un grand Ribéry, hein, je pense que vous êtes d'accord avec moi.
Ouais, Ribéry depuis quelques mois, il est en pleine bourre. Mais bon, je vais revenir vite fait sur Lyon. La deuxième mi-temps, enfin la première, la deuxième, j'ai lu quelqu'un qui a dit bon, la première mi-temps, Lyon peut se faire battre par n'importe quelle équipe de CFA, mais la deuxième, elle pouvait battre n'importe quelle équipe européenne, quoi. Donc ça prouve la grosse différence qu'il y avait entre les premières mi-temps. Et s'ils arrivent à jouer comme ça, comme la deuxième mi-temps entre Marseille, ça sera pour les Marseillais très dur, d'autant plus qu'ils ont pas Mamadou Niang et aussi, je crois, pas Samassa.
Chérou qui est Chérou. Suspendu pour 3 cartons jaunes en Chérou, match. Sans Niang,
pour non, Marseille, c'est dur.
Mais ce qu'il faut dire, c'est que par rapport à ce match-là et surtout à la seconde mi-temps, Lyon a manqué aussi de réalisme. Ça arrive souvent, je pense, dans ce championnat. Sauf, il y a un match qui m'a marqué le plus, c'était Bordeaux. Vous avez été vraiment hyper réaliste, quoi. Et ça a fait vraiment mal aux têtes des Bordelais. Tout le monde se souvient.
Allez, ouais, on se souvient d'avoir l'occasion de Chamac qui a sauvé sur la ligne. Puis quelques minutes après, Lyon ouvre le score. C'est la première occasion. Ouais, ça, c'était des réalismes. Ça, c'était.
Surtout incompréhensible quand tu vois qu'il y a des joueurs comme Benzema, Fred devant, quoi, qui sont à la base de pas un finisseur. Bah, c'est sûrement l'effet Ligue 1 qui fait ça.
C'est ça. Et puis, en fait, ouais, vas-y.
Je voulais dire revenir sur le match contre le Bayern. En fait, lors de la première mi-temps, c'était un peu, je sais pas moi, les joueurs ne savaient pas vraiment comment aborder le match parce que pour 0-0, 1-0-0 est suffisant pour rester premier. Et en même temps, la différence entre deuxième et premier n'est pas si grande que ça. Hein.
Bah, sauf il y a une statistique qui est vraiment parlante en qui s'est passée l'année dernière. Parmi les 8 équipes.
Ouais.
6 sont passés en quart de finale.
Il y avait juste Arsenal et Fenerbahçe qui s'étaient qualifiés. Ouais,
exactement.
Il y avait juste Arsenal et Fenerbahçe qui avaient éliminé Séville et Milan. Effectivement. Et Lyon était deuxième, je crois, et était éliminé par Manchester. Voilà. Ouais.
C'est vrai que quand on reparle de ce match-là à Manchester, le but
de Tevez au match aller, ça,
exactement,
ça change l'histoire.
Exactement, parce que tu gagnes à domicile, et même si tu fais une défaite là-bas, bon, ça peut aller au tir au but. On sait jamais ce qui peut se passer. Donc c'est vrai qu'il
y a un petit moment d'inattention en défense et Tevez en profite, et voilà. C'est ça, les gros matchs, ça se joue toujours sur ces petits détails.
Exactement. Et on se souvient aussi de l'AS Roma avec le fameux but de je sais plus comment il s'appelle, ce brésilien
Mancini.
Voilà, Mancini.
Ouais, Manito Mancini.
Qui a signé à l'Inter et qui avait fait très très très, très mal arrivé hier. Hein.
Voilà.
Avec je crois hier, ouais. Avec 6 passements de jambes de suite. qui retournait la tête des deux côtés comme si qu'il y avait quelqu'un dans son rétro qui n'en pouvait plus et qui s'est fait complètement déborder par un crochet gauche et une frappe du gauche en pleine lucarne, coupée ni plus rien. C'est vrai que Lyon réagit, donc pour moi en Ligue des Champions, une équipe pour passer des caps ne doit pas réagir. Alors est-ce que dans les, je sais pas qui on va tirer, ça va être forcément les des gros, hein. J'ai pas la liste sous les yeux, mais même si on sait que Chelsea est deuxième.
Vous pouvez tirer la Juve, vous pouvez tirer Manchester United,
Liverpool.
C'est vraiment pas. Cependant, il y a quand même Porto, Panathinaikos et même la Roma qui sont un petit peu jouables.
La Roma. Je pense que les supporters lyonnais ont assez mal au crâne. Et... Non, la Roma, je crois qu'on va arrêter. Hugo, il veut réagir.
Ouais, de toute façon, Lyon, cette saison, être deuxième, c'est pas la mort, puisque t'as quand même Chelsea, le Real, l'Inter, et
Parmi les deuxièmes, ouais.
Ouais, t'as Arsenal, donc
parmi les deuxièmes.
Je vois les équipes qualifiées.
Qui sont en deuxième, ouais.
Je vois les équipes qualifiées. Il y a Roma en premier, ceux qui sont en premier groupe. Donc ce que Lyon peut jouer peut-être. Roma, Panathinaikos, ouais. Barcelone, Liverpool, Manchester, Porto et Juve.
Maintenant les plus forts, il y a Manchester, Barcelone. Voilà. Il y a Didier quand même à tirer.
Ah ouais, il y a pas mal de choses. Hein. Et quand on voit aussi le deuxième, Chelsea, Inter. Atlético, Villarreal, Lyon, Arsenal et Real Madrid. Donc
c'est pas s'il vaut mieux être premier ou deuxième. Il y a surtout peut-être pour ceux qui préfèrent jouer le match retour à domicile. Mais... Même ça peut ne pas être un avantage. Hein. Si tu perds, tu prends 2-0 à l'extérieur. Tu fais quoi de ton match à domicile?
Moi je vois bien Lyon tirer soit encore Barcelone. Barcelone ou Liverpool, je sais pas pourquoi, mais j'ai
ça,
bizarrement je vois ces deux là. J'essaie un peu de réagir comme la saison passée où on était dans un groupe et c'était les deux groupes au-dessus qui étaient presque à côté, et donc pour moi ça va être un Barcelone ou Liverpool. Ça sera très très loin d'être gagné, sur quand on sait que bien sûr maintenant qu'ils sont deuxième, le match retour se jouera là-bas, hein, soit dans soit chez les Reds.
De Camp Nou.
Voilà.
Mais si Lyon arrive à faire à reproduire un match aller comme celui contre United l'année passée, je sais pas, ça joue en 4-4-2. Tu peux avoir une belle paire d'attaques avec Benzema, Fred peut-être, mais en même temps, je sais pas, Juninho, je sais pas, je l'ai vu une ou deux fois, il a été bon dans ce 4-4-2, mais on nous dit toujours que c'est pas pour lui, je sais pas. En fait, moi j'aimerais bien tester ce 4-4-2 avec Toulalan et Makoun au milieu de vrais récupérateurs. Et à ce moment-là, qui va faire les ailiers? Ben, je sais pas, un Delgado, un Keita,
un Gourou. Un Gourou des grands soirs, ça.
Je sais pas. Peut-être même le 4-4-2, ouais. Le 4-4-2, si tu mets par exemple Toulalan, Juninho au milieu. Bon, avec Juninho, soyons honnêtes, ça, Juninho défend un peu moins. Il a un peu moins le physique pour revenir derrière. Mais oui, avec un Gourou peut compenser. Un Gourou à droite peut compenser cela. Et Toulalan, déjà, il court pour deux, pour soi même.
Toulalan qui n'avait pas été très bon en championnat à Nantes, hein. On se souvient de sa perte de balle au milieu de terrain qui amène le premier but.
Le premier but, ouais, j'ai vu ça.
La nostalgie, je dis, la nostalgie.
Exactement, peut-être le poids de revenir à la Beaujoire pour l'ancien Nantais. Donc, on a parlé de cette attaque avec Piquion, Fred et bien sûr Benzema. Benzema qui est courtisé par le président du Real Madrid. Hein. Voilà. Non, mais ça veut dire officiellement quand même une phrase a été faite par le président du Milan
du Real
qui disait bah pourquoi pas faire signer Benzema cet été. Qu'est-ce que vous pensez vous pour de Benzema, va-t-il faire sa dernière saison là ou?
Ben honnêtement, je vais te dire ce que je pense. Ben non, puisque Ola ça a l'air vraiment d'y tenir. Je pense que Ola ça avait fixé des prix assez hauts pour des joueurs comme Diarra Essien Diarra Essien Malouda, qui était de 30 millions d'euros. Là, il a carrément dit 100 millions d'euros. Donc, il y tient vraiment. Il pense que personne serait prêt à mettre 100 millions d'euros pour Benzema, qui n'a pas vraiment encore prouvé au grand niveau, au niveau, même s'il a déjà marqué 11 buts avec Lyon en Ligue des Champions de 17 matchs. Dans mon avis, Ola fera tout pour le retenir et il fera même tout pour le faire prolonger.
Je crois qu'il a fait prolonger la saison dernière jusqu'en 2012 avec option 2013, quelque chose comme ça. Ça va. Ouais, vas-y.
C'est ça, oui, je confirme.
Ouais, voilà. Donc, quelque part, Olas a les moyens de le garder parce qu'il sait que de toute façon, même s'il le garde une saison de plus en 2010, il aura toujours deux années de contrat à vendre et il aura toujours sa marge bénéficiaire à faire. Mais maintenant, en même temps, pour Benzema lui-même, est-ce qu'il va vouloir rester une année de plus? Parce que soyons honnêtes, s'il va au Real, il peut avoir le double de son salaire actuel en coûtant au Real deux fois moins. Parce que la différence des taxes entre la France et l'Espagne est telle que voilà, c'est beaucoup plus facile de payer un joueur là-bas qu'ici. Donc c'est surtout ça. Tant qu'il y aura cette différence dans tant qu'il y aura ce poids fiscal très lourd, Olas, il aura du mal à garder ses joueurs, il pourra pas garder. En France, on peut pas garder des joueurs courtisés par le Real Madrid. Je sais pas, s'il fixe, il dit 100 millions, mais à un moment donné, il va le vendre à 60.
Hugo?
Ouais, mais surtout Benzema, il avait fait un souhait, c'est de gagner la Ligue des Champions avec Lyon. Donc, s'il veut attendre jusqu'à sa fin de carrière, ça va être un peu juste quand même, hein. Je sais pas, mais personnellement, Lyon, je ne vois pas gagner la Ligue des Champions avant 15 ans, voire même plus. C'est...
Ben, je sais pas. Pour que Lyon gagne la Ligue des Champions, il va falloir peut-être plus que ça, quand il va falloir garder, surtout savoir garder les joueurs, hein. Parce que même sans parler de Benzema, est-ce que on est sûr que Lyon va garder Toulalan la saison prochaine, Makoun? Je sais pas, ce sont toutes des questions à poser, hein. Parce que à n'importe quel moment, un Barcelone, un Real Madrid ou un Chelsea qui se présente, c'est très difficile de dire non, hein. C'est très difficile pour les joueurs lui-même de dire non, et c'est difficile pour Olas de toujours s'aligner sur les salaires étrangers avec comme je dis la différence des taxes qui est, parce que je sais, je crois que en France, en fait, il faut payer 100, le double de, par exemple, pour payer 4 millions d'euros à Benzema, il faut payer 8 millions de taxes. Alors qu'au Real Madrid, si tu veux payer 4 millions à Benzema par an, ça te coûte à peu près 2,5 millions de taxes. C'est largement différent. C'est pas possible de financer cela en France. C'est pas évident de garder des joueurs dans le championnat de France. Si les gros clubs s'alignent maintenant, pour l'instant, tant que les gros clubs, maintenant, est-ce que Lyon peut ne pas faire intéresser, empêcher les gros clubs de s'intéresser à ces joueurs? Ça, c'est une autre histoire. Pour l'instant, Lyon arrive à garder assez de bons joueurs pour dominer le championnat de France, mais ils n'arrivent pas à garder assez pour gagner la Ligue des Champions. Parce que j'imagine que s'ils avaient gardé il y a quelques années les Essien et Diarra, peut-être recruté le Drogba qui avait quitté Marseille, Lyon serait certainement en finale de Champions League il y a déjà 2 ans.
Peut-être, mais c'est sûrement du fait que ces joueurs-là ont envie de progresser et sentent que les équipes françaises ne vont pas passer les demi-finales ou même jouer une demi-finale contre un club européen. Donc je pense que c'est le fait de se lasser et de se dire bon, j'ai fait mon temps en France, j'ai l'occasion
je
de briller ailleurs.
J'ai
l'occasion de briller ailleurs, une occasion comme ça se loue pas. Et puis bah les joueurs qui sont en France, ils le savent, hein, dès qu'ils auront quand ils entendent la réussite justement de ces joueurs qui sont partis pour Ribéry, hein, qui est, depuis que quand on voit que Ribéry ne joue pas, le Bayern n'est plus le même. C'est des exemples comme ça qui font réfléchir. Après, bien sûr, il y a des choix de carrière à voir, parce qu'il y a nombre de Français ont quitté la France et ont fait réussite ou pas. Même d'autres ont été oubliés. On parle d'ailleurs de Julien Faubert, l'ancien Bordelais, qui a signé à West Ham, voilà, c'est ça. On parle de lui en France, lui qui avait eu du mal en début de saison, qui avait offert quelques buts contre son camp, avec des pertes de balles, des pénalties, ainsi de suite. Donc donc c'est très dommageable pour le championnat français. Voilà. On passe à quel sujet ensuite?
Le classico un peu.
Bon, bah. Le classico, alors pour parler du classico vite, hein, c'est pour mettre les choses au clair. Barcelone qui est une équipe en pleine bourre, qui a perdu en Ligue des Champions, je crois, 3-2 ou un truc comme ça. Qui va recevoir le Real de Madrid, qui est une équipe qui a perdu son entraîneur en cours de semaine, Bernd Schuster, au profit de Randy Ramos. Oh, le grandissime favori, c'est bien entendu Barcelone, qui marque but sur but, qui a plus de 40 buts déjà cette saison, avec une attaque de feu composée d'Eto'o, Messi, Henry, et un Real de Madrid qui s'appellerait plutôt Hôpital de Madrid, puisque les principaux titulaires sont à l'infirmerie. Je pense à Diarra, Van Nistelrooy, qui a été remplacé par Sebastián Mitola. Alors il y a eu le premier ministre espagnol qui est catalan et donc supporter de Barcelone, a dit Barcelone gagnera 5-1. Donc vous en pensez quoi de ce match
Je pense que oui, contrairement aux années, enfin surtout à l'année dernière, puisque je me souviens aussi d'une bonne claque du Real face à Barcelone.
Ah ouais.
Avec un doublé de Ronaldinho, on peut dire que cette année-là, oui, c'est le Barça qui va sûrement l'emporter, puisque le Real est en pleine convalescence, puisqu'ils ont perdu la deuxième place, et je crois qu'ils sont quatrième ou cinquième. Donc quand on voit la bonne forme de Barcelone, on peut se dire que Schuster, je pense qu'il fallait le virer plus tôt. Ahmedou.
Ouais, en fait, il me semble que il paraît, je viens de voir que le Real n'a plus perdu depuis 5 matchs. Hein. Ils avaient perdu à domicile contre le Barça 3-0 il y a quelques années. Et depuis, ils ont, avec notamment un doublé de Ronaldinho qui a mis des ovations de Santiago Bernabéu. Mais depuis, le Real ne perd plus un Clasico. La dernière saison, ils ont gagné même au Camp Nou 1-0 avec Batista. Puis ils ont gagné largement au match retour, je ne sais plus exactement, 4-1 ou quelque chose comme ça. Le Real gagne les derniers matchs, mais aujourd'hui, le Barça est largement favori, mais en même temps, du côté de Barcelone, il doit y avoir une énorme pression sur ce match, une énorme attente pour les supporters pour qui ça fait 3 ans qu'ils gagnent plus contre le Real. Donc, ça, c'est vraiment le match qu'ils attendent. Lors du dernier match en Champions League, ils avaient complètement fait l'impasse sur la réception du Shakhtar Donetsk. Ils ont par conséquent concédé une défaite à domicile. Ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas concédé de défaite à domicile en Champions. Ouais. Ils ont perdu 3-2, mais sur ce match-là, ils avaient fait jouer que des joueurs, que des jeunes joueurs, quoi. Voilà, ça, c'était le 19 novembre 2005, la dernière victoire du Barça. Ça fait 3 ans. Plus de 3 ans, même.
Ouais. Donc, c'est un grand match qui ne va pas susciter autant d'attentes que l'année dernière où vraiment c'est le match qu'il fallait voir à tout prix. Et finalement, c'était fini en 1-0, je crois, but de Julio Baptista pour le Real de Madrid. Donc, ouais, effectivement, les joueurs de Barcelone auront certainement une pression de plus que Madrid qui se sentira l'outsider, vraiment l'outsider par excellence. Donc les joueurs de Barcelone vont devoir assurer pour confirmer et non pas douter.
J'espère que le Real est outsider, hein. Ça se joue à Barcelone, puis c'est le Barça qui est largement devant. Donc.
Mmh. Ouais. Surtout que bah, j'ai souligné tout à l'heure, c'est une attaque de feu, avec un Eto qui est toujours servi sur un plateau par Messi, voire des fois Henry, et monde derrière, Keita, Touré, ça tient la baraque, Javi Alonso, exceptionnel, une défense qui on va dire qui tient la baraque, et bon, leur seul point faible, c'est encore Victor Valdés, qui n'a pas encore fait de grosses bourdes cette saison, donc c'est ça qui est inquiétant au Barcelone, en plus, tous les postes sont presque doublés, donc, voilà. Donc le Barcelone part vraiment en grand favori, et bon, s'il perd,
le Barça est grand favori. Et le Barça a un très gros coup à jouer parce que je vois là au classement, le Barça a 35 points. Je vais pas voir regarder le deuxième, c'est Villarreal, mais le Real est cinquième avec 26 points. Donc une différence de 9 points entre le Barça et le Real. En cas de victoire demain, ça fait 12 points. Et avec 12 points, on peut dire que le Barça est champion. Hein.
Bon, faut pas trop enterrer le Villarreal. Parce que la saison passée, ils ont quand même, ils ont quand même été sur le podium, je crois. Enfin bon...
Parce qu'il y a quand même pas mal de polémiques, donc pour moi c'est un autre classico.
Oui, j'aime pas trop.
En France, voilà, exactement. Qui s'apprécient en tant que joueurs, mais ils font pas la fête ensemble, on va dire.
Ils sont pas les meilleurs, mais ouais, c'est clair.
Voilà, donc si tout est dit, on va pouvoir rendre l'antenne, hein, messieurs.
Tout à fait, monsieur.
On aura fait une bonne émission. Donc on va un peu
rendre okay. Antenne là.
On va rendre antenne, ouais.
Bon bah salut Dan.
Ok, ciao.
Et bien il y avait Hugo ce soir, il y avait Ahmedou.
Bonsoir tout le monde.
Bien. Il y avait Dan aussi, hein.
Ouais. Voilà, 22h20. On a commencé à 21h. Voilà, on a parlé un peu de tous les championnats. C'était pas évident puisque vous étiez que deux. Et donc, je vous remercie, messieurs, d'avoir fait que cette émission ait tenu. On remercie aussi les quelques auditeurs qui ne nous ont pas lâchés. Et puis, on se donne rendez-vous demain pour le débat after 23h. À bientôt, messieurs.